pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au Salon de l'Immobilier, le CIMI, la rencontre des acteurs de l'immobilier pour une nouvelle émission du cycle, Ville Nature, proposé par Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union européenne et avec le concours, par le truchement, devrais-je dire, de Valor. Valor qui vous sera présenté tout à l'heure par sa présidente et qui est l'interprofession française du végétal, de la fleuristerie et du paysage. Alors, nous avons eu l'occasion de débattre avec des acteurs de l'immobilier au mois de juin, puis avec des élus au mois de novembre, à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales. Eh bien aujourd'hui, nous recevons des parties prenantes que nous n'avions jusqu'à présent pas reçues, vous allez le voir, sur un sujet dont le titre est le suivant: des logements et des arbres, une charte née en Nouvelle-Aquitaine et qui est exemplaire. Je crois que j'écorche un tout petit peu le titre de l'émission. Alors sans plus attendre, nous allons convoquer les invités qui vont prendre la parole. À ma droite, tout d'abord, Catherine Muller, présidente de l'interprofession Valor. Bonjour Catherine.
Bonjour Pierre.
Pierre Vital, vous êtes président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Et voilà, vous avez la stéréo. Et puis enfin, last but not least, bonjour Antoine Dagano, pépiniériste, dirigeant des pépinières charentaises et également président de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et de la pépinière, la FNPHP Nouvelle-Aquitaine, l'antenne Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Antoine.
Bonjour Pierre.
Alors, cette charte des logements des arbres, il n'y a pas de « et ». Nous allons voir en quoi elle consiste, quelle est son origine, et puis aussi ce que cela permet et quels sont les défis qui s'ouvrent à chacune des professions qui sont ici présentes. Alors, je dis que c'est un panel inédit puisque nous n'avions jamais reçu jusqu'à présent les producteurs qui sont à la racine, si je puis dire, des métiers du paysage et de la nature en ville telle que nous la vivons. Et nous allons y revenir et c'est assez intéressant de voir comment cette charte est née. Alors, peut-être première question tout d'abord pour Pierre Vital. Pourquoi cette charte? Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à la mettre en œuvre? Je crois que c'est votre prédécesseur que vous pourrez saluer qui a notamment été à l'initiative.
Alors tout à fait, Pierre. En fait, il faut savoir que la Fédération des promoteurs immobiliers est une fédération qui est en plein mouvement, qui est proche des territoires, qui a vocation à écouter un peu quelles sont les attentes des élus, quelles sont les attentes des clients, et qui est du coup engagée sur vraiment un travail de profondeur pour que la profession s'améliore sur pas mal d'aspects. Donc les aspects évidemment du végétal, les aspects des usages. Mon prédécesseur Arnaud Roussel-Prouveau avait donc lancé à son initiative et suite à un échange avec Jérôme Brett, qui est un imminent partenaire de l'UNEP Nouvelle-Aquitaine, cette démarche. Cette démarche, elle est née donc d'une rencontre de l'interprofession. Donc c'est déjà une démarche qui est atypique, puisqu'on travaille souvent en silo, et dans cette action-là, on est vraiment sur une action collégiale avec tous les acteurs et tous les parties prenantes de la filière, et qui avait vocation à remettre le végétal dans les opérations. On est très souvent stéréotypé comme promoteur bâtisseur, comme les acteurs qui font de l'imperméabilisation des sols. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire revenir le végétal au cœur de la démarche. Et cette démarche, elle a été matérialisée par cette formulation de la charte en mai dernier. Et je tiens à souligner que c'est une charte qui a été mise en place avant la mise en place de la charte du bâtiment frugal bordelais, qui est une autre démarche en parallèle menée par la mairie de Bordeaux, mais pour bien montrer que l'acteur de la profession qu'est la FPI était en amont des vraies problématiques des élus.
Donc ce qui est intéressant alors pour nos auditrices et nos auditeurs qui sont moins familiers peut-être que nous avec les acronymes, la FPI, donc Fédération des promoteurs immobiliers, qui est une fédération nationale dont vous présidez l'antenne régionale. C'est donc une initiative régionale et vous avez cité Jérôme Brett, très actif à l'UNEP. Donc l'UNEP, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est l'Union nationale des entreprises du paysage. Autrement dit, la fédération qui représente l'ensemble des quelques, si je ne dis pas de bêtises, 30 000 entreprises et un peu plus de 100 000 actifs de jardiniers paysagistes, ceux qui vont aménager et entretenir et même animer les différents paysages. On y reviendra avec Catherine Muller tout à l'heure. Et ce qui, je crois, est intéressant, c'est que cette charte est née en Nouvelle-Aquitaine. Elle a effectivement créé des émules avec ce manifeste et cette charte sur le bâtiment frugal. On salue notamment Philippe Madec, qui est régulier des antennes de Radio Territoria et architecte qui avait créé ce manifeste pour une frugalité heureuse. Mais ce ne sont pas uniquement les fédérations qui sont signataires, je crois, ce sont les entreprises. Vous ouvrez la voie et ensuite chacun s'engage, c'est cela ?
Alors en fait, effectivement, c'est une initiative qui vient donc de tous les acteurs qui ont signé cette charte. Donc, vous l'avez rappelé, la FPI qui était avec l'UNEP, l'UNAM, la FNPHP, les instigateurs de cette démarche-là. Et c'est une démarche qui est une démarche volontaire. Donc nous, ce qu'on propose, et l'ensemble des fédérations mobilisées l'ont fait auprès de leurs adhérents, c'est qu'on propose à nos adhérents de signer cette charte, qu'on la mette dans une certaine visibilité avec un site internet qui a été maintenant qui est en ligne et qui est actif. Donc le but, c'est de faire connaître la démarche, de faire adhérer le plus grand nombre d'opérateurs. À date, on a à peu près 30% des adhérents de la Fédération des Nouvelle-Aquitaine, des promoteurs qui ont signé. Et donc, c'est de faire des émules, de faire donc des petits, et que l'ensemble de la production vienne à intégrer cette démarche-là, que je pourrais expliquer après, mais qui est une démarche vraiment volontariste, qui ne marche pas que pour l'image à la livraison, mais qui marche vraiment pour le temps. C'est-à-dire que c'est une opération qui a vocation à tenir le végétal longtemps après la livraison, avec des principes en particulier sur l'entretien, sur la qualité des végétaux.
Alors on va y revenir, c'est extrêmement important. L'UNAM, là aussi, au jeu des acronymes, l'Union Nationale des Aménageurs. Donc on a bien une charte qui s'adresse à la fois à l'échelle de l'île au bâti, du bâtiment et son proche environnement, mais aussi celle du quartier avec les aménagements. Antoine, vous avez vécu la Genèse. Qu'est-ce que vous ajouteriez au propos de Pierre Vital sur la naissance de cette charte, sur les raisons, les motivations qui vous ont poussé à la créer ?
Donc effectivement, comme l'a très bien dit Pierre, c'est une initiative qui a commencé entre l'UNEP et la FPI via les deux ex-présidents. Mais nous avons rapidement été mis en contact en tant que producteur et donc en tant que membre de cette filière du paysage. Notamment parce que nous avons vraiment l'habitude de travailler ensemble, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine, avec des relations très régulières sur des événements qui peuvent être les rencontres du paysage urbain ou les Olympiades des métiers. Et donc ça a été assez facile pour nous de nous intégrer dans ce projet qui a été effectivement mené assez rapidement et efficacement quand on voit parfois les difficultés qu'on va avoir à discuter les uns avec les autres. Voilà.
Donc efficace. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose, délogement des arbres. Je crois que le site internet, c'est délogementdesarbresansespace.com.
Tout à fait.
Quel en est le contenu ? Messieurs, je vous laisse préciser un peu. Qu'y a-t-il dans cette charte pour celles et ceux qui voudraient la lire et éventuellement la signer ?
Alors tout d'abord, il y a la présentation de la charte avec les engagements qui sont pris par les différents partis. Donc en ce qui concerne l'acteur de la promotion qui est la FPI et l'UNAM aussi d'ailleurs, notre engagement, il est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'important pour nous, c'est de travailler sur les budgets qui sont alloués au végétal. Souvent, on a tendance à dire que le végétal, dans ce qu'on appelle les VRD, les voiries réseaux d'hiver, sont souvent ce qu'on met à la fin. Donc, c'est les budgets qu'on traite à la fin et souvent, ils sont maltraités. Donc, premier engagement, c'est mettre du budget financier, mais aussi en termes de volume de végétaux. La deuxième élément qui est important, c'est prévoir dès le départ et dès la phase conception des équipes expertes pour bien faire le paysage. Et quand on dit bien faire le paysage, c'est faire avec le déjà là et aussi planter avec une bonne cohérence de végétaux, donc une filière locale, des arbres de bonne taille. Donc on n'est pas là pour dire qu'on va planter un logement, un arbre avec des petits arbustes. Le but, c'est de planter des arbres à haute tige, de présenter des linéaires de haies, de présenter de la pelouse. Donc c'est un ensemble, on va dire, de végétaux qui sont importants à intégrer. Et après, il y a des démarches qui sont intéressantes et qui débordent au-delà de l'échelle du projet. D'abord, on souhaite associer à la démarche les riverains. Donc c'est soit les mairies de quartier, soit les riverains, pour voir aussi quelles peuvent être les demandes ponctuelles pour que sur un territoire privé, on intègre du végétal qui va venir rayonner à l'extérieur. Donc on parle beaucoup de frontage, c'est-à-dire mettre du végétal en limite de propriété. Et là, on est dans cette limite publique-privée qui est quand même assez fine et qui du coup donne de la qualité au projet pour le quartier. Mais c'est également, et ça c'est important, quand les végétaux ne sont pas en totalité consommés à l'échelle du projet, sur le quantitatif, on va le donner à une association de quartier. Donc ça veut dire que du coup, les végétaux excédentaires vont bénéficier à une association de proximité. Ça, c'est important parce qu'on est effectivement là vraiment pour que le végétal, il rayonne partout, pas qu'à l'échelle de notre projet, mais à l'échelle du quartier, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc ça, c'est des éléments qui sont importants pour nous et qui ont du coup vocation à changer l'image qu'on peut avoir sur l'acte de construire, qui est souvent un acte très perturbant pour le quartier, très perturbant pour les riverains, et pour montrer que grâce au végétal, on est parfaitement aligné avec les intérêts de tout le quartier. Et un nouveau projet qui arrive, c'est plutôt un poumon plutôt qu'une contrainte.
Alors, on va y revenir. En synthèse, ce que vous nous disiez hors antenne, c'est que le vocable initial, c'était un logement, un arbre. Et qu'effectivement, vous aviez trouvé que c'était une belle formule qui a d'ailleurs été utilisée par d'autres cercles il y a quelques années à peine. Mais qu'au fond, il est difficile d'avoir forcément un arbre de haute futaie dans tous les projets. Et c'est ce qui a renforcé votre idée d'expliciter dans cette charte le fait que les végétaux qui seraient en surnombre soient donnés aux riverains, ce qui vous permet de continuer ce lien avec le quartier, mais pas seulement avec le quartier au sens géographique, mais au sens humain et vivant du terme. Ça, c'est extrêmement important. Vous nous parlez d'anticiper les budgets. J'entendais encore tout à l'heure sur le salon un promoteur me dire « mais au fond, c'est un coût supplémentaire qui est extrêmement faible à l'échelle des investissements qui sont colossaux, pour peu qu'on l'anticipe. » Et dans cette anticipation, vous nous l'avez dit, et je voudrais entendre Catherine Muller sur ce point, il faut impliquer les différents acteurs de la filière, les différents métiers. Alors on pense de plus en plus aux écologues, on pense aux concepteurs du paysage, aux entrepreneurs, aux pépiniéristes. C'est justement l'apanage de l'interprofession Valor. Catherine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces différents métiers, à la fois sur le paysage et puis aussi sur les autres filières, parce que c'est une grande famille, je crois.
Oui, effectivement, c'est une grande famille qui rassemble 55 000 entreprises tout de même, puisque nous abritons tous les acteurs économiques qui sont en relation de plus ou moins proche d'ailleurs, avec le végétal, donc un collège producteur, puisque nous avons ici un représentant avec Antoine. Production de la semence jusqu'à la grande pépinière, un collège de commercialisation, donc nous accueillons toute la grande distribution, enfin la distribution spécialisée en végétaux, sans oublier la fleuristerie, vous l'avez cité, Pierre. Et puis bien sûr les entreprises qui mettent en œuvre les travaux, sans oublier en dernier lieu les concepteurs, donc concepteurs du paysage, qui ont un rôle important à jouer dans la définition des projets par anticipation. Vous avez cité le mot anticipation. Mais j'aimerais, Pierre, si vous me le permettez, reprendre cette charte et puis vous expliquer pourquoi Valor nous a paru important d'être partenaire et puis d'appuyer ce mouvement qui est un mouvement régional. Effectivement, nous avons plutôt l'habitude, nous, de notre point de centralisation qui est Paris, de travailler sur des sujets qui vont diffuser depuis Paris en centralisation jusqu'au territoire. Et là, c'est tout de même une belle expérience qui remonte dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, j'ai pu flécher cet engagement qui était tout à fait territorial, puisque Nouvelle-Aquitaine, définie dans un contexte de la Nouvelle-Aquitaine. Et me rendre compte que c'était un sujet que nous pouvions bien évidemment, en partenariat avec la FPI, les producteurs et les entreprises du paysage, développer dans d'autres régions et peut-être d'être des stimulants pour pouvoir développer une telle charte. Et c'est important d'avoir aussi justement une maison un petit peu nationale qui va impliquer les uns les autres dans cette belle dynamique. Et par rapport au souci d'anticipation. Je pense que, Pierre, on va revenir. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de construire des projets qui vont s'inscrire dans le temps. Parce que le végétal, le végétal a deux spécificités. La première, c'est qu'il n'a pas de frontière cadastrale. Ça, c'est très important. Et la deuxième, c'est que la notion du temps, quand on touche le végétal, n'est pas celle du tout de suite et de l'immédiat. Donc on sort, si je puis dire, de la dictature du tout de suite et on va sur des espaces beaucoup plus longs, puisqu'on parle de 30 ans, de 50 ans, voire de centaines d'années.
Alors on va y revenir. Vous avez indiqué qu'effectivement, le végétal n'a pas de frontières. La formule qu'on peut utiliser, c'est que le regard humain, lorsqu'il est dans une rue ou dans un quartier aménagé, ne connaît pas les frontières administratives. Et fort heureusement, peut-être, on peut admirer un arbre, qu'il soit dans un alignement ou dans un square, qui peut être confondu, un square public, au sens d'une maîtrise d'ouvrage et d'une régie publique, qui peut d'ailleurs déléguer des choses au privé en matière d'entretien, de la même manière que ce regard peut se porter sur un arbre en cœur d'îlot. Les îlots sont de plus en plus en transparence. Peut-être, Pierre, vous pourrez en témoigner. Et c'est la même chose, probablement, pour les êtres vivants autour de nous, dont nous faisons partie, cette grande nature. Par exemple, un oiseau, lorsqu'il se pose sur un arbre, n'a que faire de connaître le rattachement administratif du tronc et de l'ensemble des branches. Alors justement, avant de revenir aux enjeux de la filière, et notamment ce temps long, quels enjeux, Pierre, et puis vous tous, pourriez donner pour le monde, entre guillemets, la filière de l'immobilier et même l'aménagement? Vous avez cité tout à l'heure le gros mot d'artificialisation. On nous parle de ZAN. Alors, j'évacuerai ce sujet, non pas pour l'éluder, mais parce que la définition n'est pas encore officielle. Et j'aime beaucoup le terme de sobriété foncière qu'on nous propose, qui donne peut-être un petit peu plus de concret. Il y a probablement cet enjeu-là. Il y a un enjeu de dialogue avec les parties prenantes, pour utiliser un vocable RSE, et puis aussi un enjeu de biodiversité. Pour vous, cette charte de l'arbre, on l'a bien compris, ça n'est pas un arbre, ce sont des arbres, et vous, derrière, vous y mettez autant des plantes vivaces, des arbustes et des arbres, que la figure tutélaire du grand arbre autour duquel on se rassemble. Quels seraient les enjeux pour l'immobilier que vous soulevez en fait à travers cet outil ?
Alors, je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est que on est sur de la raréfaction de foncier. Donc là, aujourd'hui, quand on parle de ZAN ou de sobriété foncière, se pose quand même la problématique de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir cumuler à la fois un besoin de logement qui est évident et en même temps un besoin de garder du végétal ou même de recréer du végétal dans des territoires qui étaient à l'époque artificialisés. Donc, moi, je dirais que nous, en tout cas, ce qu'on porte, c'est qu'il n'est pas antinomique de vouloir construire en masse, parce que c'est de ça qu'on parle et c'est de ça dont on a besoin, par la densité de hauteur, au profit de la libération d'espaces verdissants.
Sur le plancher des vaches. Oui.
Ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas cumuler les deux, faute de quoi on va avoir une insatisfaction à un moment donné, soit parce qu'on ne va pas réussir à reproduire les espaces verts dont on a besoin pour bien vivre la ville, soit au contraire pour loger les gens. Et donc les deux sujets sont vraiment complémentaires. Donc la première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la densité et de la hauteur au profit justement d'une plus grande qualité du végétal dans les projets. Pourquoi ? Parce que c'est aussi comme ça qu'on fera accepter la densité. La densité avec des projets très vertueux, alors pas que au niveau du végétal, mais aussi au niveau du service, au niveau de l'usage, ça c'est important. Et là-dessus, on peut effectivement voir des problématiques un peu nouvelles et des logiques un peu nouvelles, qui est par exemple celle de dire que des espaces verts privés peuvent être ouverts sur l'extérieur, peuvent être ouverts sur le quartier. Donc ça, c'est des démarches qu'on est en train d'entreprendre sur la région bordelaise, où on travaille avec les équipes des espaces verts de la ville pour voir comment est-ce qu'on peut, sur certaines opérations qui ont des espaces et des parcs en proximité ou voire en domaine public, comment est-ce qu'on peut les ouvrir et comment est-ce qu'on peut les co-exploiter pour garantir une pérennité dans le temps. C'est pas le but, une fois de plus, c'est de travailler sur le temps long. Donc, ce n'est pas juste de se dire on fait un bel effet d'annonce et on prévoit un parc qui va être ouvert et à la première assemblée générale, le parc est fermé parce que les copropriétaires décident que ce n'est pas utile. Il faut trouver un modèle économique qui est intéressant pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Et je pense que le végétal aide à faire passer les projets immobiliers. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une question d'acceptabilité des projets immobiliers. Donc ça, c'est
et ça n'est pas pour autant un alibi qui permet de faire du business as usual.
Non, ce n'est pas qu'un alibi. Et je dirais même plus loin. Donc si on veut parler sur le temps long, il y a un élément qu'on n'a pas évoqué. C'est aussi de se dire... Le promoteur immobilier, il a souvent l'image de livrer une opération et après de s'en aller. Mmh. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nos clients, ils achètent sur un projet immobilier pour y vivre. Donc, on a aussi ce devoir, et c'est inscrit dans la charte, d'avoir cette notion d'exploitation. Comment est-ce qu'on va vivre le parc et comment est-ce qu'il va être géré? Donc ça fait partie aussi des prérogatives. Il va falloir que les opérateurs travaillent en amont, dès la phase conception, avec des syndics de copropriété, pour intégrer tous les systèmes qui, demain, permettront de bien exploiter le parc. Il est hors de question d'avoir un parc où il n'y a pas d'arrosage prévu. Il est hors de question de mal penser l'implantation des arbres s'ils sont demain à proximité de zones de portails ou autres qui peuvent du coup dégrader. Donc c'est vraiment ce sujet-là du sujet du long terme qui, du coup, change la façon de percevoir l'opération immobilière qui n'est plus simplement un immeuble, mais qui en réalité est un complexe végétal-bâtiment.
Alors, on parle de temps long. Antoine, je vais vous donner la parole. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on a des ordres de grandeur. L'ordre de grandeur, Pierre, la durée moyenne ou l'écart type d'un projet immobilier, en combien d'années, de combien d'années parle-t-on à peu près ?
Nous, un projet immobilier, entre le moment où on signe une promesse de vente et le moment où on le livre, il se passe entre 42 et 47 mois. Mmh. Donc, c'est 3-4 ans. Un bâtiment a une durée de vie qui est évidemment très importante, 50 ans, 60 ans, 100 ans en fonction donc, des opérations. Donc il faut bien comprendre qu'un projet, quand nous on le livre, c'est pour nous un temps long, mais pour celui qui va l'acheter, c'est un temps qui est encore plus long. Donc il faut bien qu'on trouve une pérennité dans l'ouvrage bâti, mais aussi dans l'ouvrage végétal.
Et là, on parle à partir de la signature de la promesse de vente. J'imagine que si on intègre la prospection foncière, le développement... Et la phase amont dans laquelle on va associer l'urbaniste, l'architecte, le paysagiste, concepteur, l'écologue, on remonte encore 4 à 5 ans. Ouais. Alors Antoine, pour faire un arbre, vous qui en produisez, un arbre tel qu'on peut l'avoir dans une place publique ou dans un cœur d'îlot privé, combien de temps faut-il à peu près ?
Alors évidemment, c'est très variable puisqu'on va parler de plantes qui peuvent être produites sur un temps relativement court de 6 mois à 1 an. Mais un arbre d'une bonne dimension, on va facilement arriver sur des plantes qui ont une dizaine d'années. Une dizaine d'années, pas toujours chez le même producteur, puisqu'il y a des spécialisations, ceux qui multiplient les végétaux, puis ensuite ceux qui les élèvent, etc. Mais c'est donc, on est aussi sur le temps long. Donc l'intérêt de pouvoir, en amont de chaque projet, dialoguer sur la palette végétale, qu'est-ce qui pourrait être mis, qu'est-ce qui sera adapté à la fois géographiquement, et on parle aussi dans le temps, puisqu'on sait qu'on a un réchauffement climatique, donc une palette végétale qui peut évoluer. Ce temps-là, il n'est pas du tout du luxe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a souvent la palette végétale à livrer qu'on découvre 3 semaines avant le début du chantier. Oui. Ce qui effectue le dialogue en amont permettra de bien mieux mettre en adéquation le besoin et ce que nous, on est capable de produire. Donc ça, c'est un point très important.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se met à la place du maître d'ouvrage, par exemple privé, qui dialogue avec la collectivité, on doit considérer différentes dimensions, c'est vrai. Le volet esthétique et culturel, puisqu'on peut être attaché à certaines variétés qui vont être emblématiques d'une région. Je pense au Lagerstromia, le lilas des Indes, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui est très populaire dans le sud-ouest, puisqu'il y a quelques pépinières qui les ont multipliées et obtenues des variétés. Ça n'est pas une espèce locale, mais elle peut avoir une forte valeur culturelle. En plus de ça, effectivement, on parlait de biodiversité tout à l'heure. On a besoin aussi d'espèces qui soient adaptées aux espèces sauvages et notamment à la faune locale. Et puis, on peut croiser cela avec des besoins de rafraîchissement, avec une capacité à évapotranspirer, c'est-à-dire émettre de la vapeur d'eau qui, en passant de l'eau, en passant à l'état gazeux, à l'état de vapeur, va consommer de l'énergie et rafraîchir. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à prendre en considération. Et si je reformule ce que vous dites, c'est qu'en travaillant en amont avec le paysagiste concepteur, l'architecte, l'écologue, on peut définir une palette végétale aussi en regardant les végétaux en pépinière plutôt que de partir d'une liste un peu théorique.
Idéalement, venir en pépinière, voir ce qui existe, puisque a priori, on est sur une charte qui favorise l'achat local. Oui. Donc on profite des expériences des uns et des autres. Et nous, en tant que producteurs, évidemment, on identifie bien l'évolution de cette fameuse gamme. Ça permettra de favoriser un projet qui sera d'autant plus pérenne, qualitatif, durable et qui fera satisfaction pour tous les habitants des logements.
Et ça n'est pas forcément un frein, c'est une donnée à la créativité de nos amis paysagistes concepteurs qu'on salue. Hein, prononce bien, c'est la Fédération française du paysage, la famille représentative de ces métiers. Alors,
que nous sommes toujours ravis d'accueillir dans nos pépinières pour qu'ils s'imprègnent encore mieux de la palette végétale possible.
Et ben voilà, l'appel est lancé. Alors, Catherine, le sujet a été mis sur la table par Pierre en disant le promoteur livre un ouvrage, mais l'histoire ne fait que commencer pour le végétal. Il faut anticiper la gestion, l'exploitation, l'entretien, on dit souvent dans les métiers du paysage. C'est une opération comme la propreté ou le nettoyage dans d'autres métiers, mais ce sont avant tout des femmes et des hommes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'importance de l'anticiper et qui et quelles compétences sont derrière ?
Si vous me permettez, Pierre, je ferai un tout petit rétropédalage parce que, avec une casquette un peu d'entreprise du paysage particulièrement. Parce que la signature de cette charte va nous permettre de mieux nous connaître, de mieux comprendre les difficultés que nous rencontrons quand nous œuvrons sur un chantier. Et notamment, quand on intervient sur l'aménagement extérieur, on peut démarrer en amont de la construction et bien évidemment en aval. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut rencontrer de grosses difficultés lors de la construction. Et le fait de se rencontrer, de s'écouter, de se connaître, va permettre de diminuer les soucis que nous allons rencontrer tout au long de la vie de la construction. D'autant plus quand il y a plusieurs lots de construction et qu'on le sait, il y a du piétinement, du non-respect des ouvrages qui sont en devenir. Parce qu'effectivement, Pierre, nous livrons des ouvrages en devenir, à la différence du bâtiment qui livre des ouvrages qui, eux, commencent à vieillir. Donc, je vais pouvoir rattraper le sujet avec l'entretien.
C'est parfait. Vous vous raccrochez aux branches, si je puis dire.
Je me raccroche aux branches. Effectivement, ce capital, ce patrimoine n'aura de valeur que s'il a de la durée, si sa durée est garantie, s'il y a de la pérennité de cet ouvrage-là. Donc, ça veut dire qu'il faut y réfléchir très tôt, en amont, par un choix judicieux, une palette judicieuse. Réfléchir aussi à la problématique commerciale. Mmh. Est-ce que vous, promoteur, vous ne pourriez pas tout de suite sensibiliser le futur acquéreur à cette dépense qui, somme toute, relativement modeste, mais qui doit rentrer dans un budget de copropriété? Donc, il est évident qu'il faut réfléchir à cela. Nous avons effectivement des entreprises qui sont spécialisées dans l'entretien et qui peuvent apporter beaucoup de solutions. Je pense qu'il y a aussi des définitions à l'avenir, des solutions d'avenir à apporter avec des échanges entre les professionnels et les copropriétaires, parce que aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Le télétravail impose des durées
de
présence dans son logement longues. Mmh. Et pour mieux s'approprier son logement, il faut répartir le temps en intérieur, le temps en extérieur. Donc peut-être que les professionnels du végétal pourront toujours travailler donc avec leurs compétences et mettre en avant toutes leurs connaissances, mais s'ouvrir un peu aux copropriétés et peut-être les engager, tous ces citoyens, à être aussi acteurs de l'entretien de leurs espaces verts. Donc voilà, on a aussi le souci vraisemblablement, enfin c'est pas un souci, mais c'est des ouvertures avec des jardins partagés qui marchent bien. Les toitures végétalisées, on le sait que maintenant il y a des obligations aussi de végétalisation de toitures. Les parkings, n'oubliez pas vos parkings, parce que vos parkings sont des éléments essentiels de végétalisation. Et puis, pour un dernier, je voudrais aussi recentrer un tout petit peu le débat sur l'intérêt de cette nature que vous avez accepté d'intégrer dans vos projets. C'est qu'il y a effectivement le volet biodiversité environnementale, mais il y a le volet aussi technique du végétal, c'est-à-dire que n'oublions pas que nous allons avoir des précipitations de plus en plus fortes, de plus en plus intenses,
Des
périodes très courtes, et qu'il faut que ces aménagements extérieurs puissent absorber très rapidement ces quantités d'eau. Apporter effectivement des îlots de fraîcheur, mais ça, c'est plus perceptible, c'est plus facilement perceptible. Parce qu'on a tous constaté qu'on a beaucoup moins chaud sous un arbre qu'en plein soleil. Donc ça, c'est un sujet qui est bien connu. Et puis enfin, le côté social, acceptation, mixité sociale. Vous l'avez dit, et ça, je trouve ça assez admirable, que vous réfléchissez sur l'ouverture des frontières avec la mixité, enfin cette ouverture entre l'espace public et privé, ce qui veut dire que ce sont des lieux où la société se retrouve, et puis on va l'avouer, mais c'est gratuit, c'est du plaisir gratuit, donc c'est que du bonheur.
Alors, ce sont effectivement des espaces ouverts à tous, vous l'avez dit Catherine, c'est une charge de copropriété, ça coûte, mais effectivement si on l'anticipe, Pierre, c'est tout à fait absorbable. Puisque ceux qui nous écoutent vont probablement dire « mais c'est bien, mais ça coûte de l'argent en exploitation, on a déjà des charges de copro très élevées ». Vous souscrivez à ce que dit Catherine, si c'est anticipé, c'est une charge minime ?
J'abonde évidemment à ce que dit Catherine, et c'est valable sur tous les aspects de la gestion de la copropriété, puisque du coup, là, on parle du végétal, mais une bonne conception d'immeuble, ça se travaille aussi sur la pérennité des espaces communs. Donc, c'est-à-dire que les investissements qu'on va faire, ne serait-ce que pour accéder à son logement, la gestion des portails, la gestion des portes d'accès, la gestion des locaux poubelles, tout ça sont des éléments qui, s'ils sont pris très en amont, et c'est valable évidemment en plus, encore plus sur le végétal, vont permettre d'avoir pour une partie des charges, une réduction des charges, qui peuvent être d'ailleurs des charges d'exploitation, mais aussi ça peut être des charges d'entretien, parce que quand on conçoit mal un bâtiment, on peut avoir du coup des sinistres très rapidement. Donc je pense qu'effectivement la conception prise dans son ensemble et très tôt avec l'appui de l'ensemble des parties, c'est-à-dire les concepteurs, les syndicats de copropriété et aussi de l'éducation aux copropriétaires, effectivement ce n'est pas un surcoût. Voilà, à condition que ça soit fait dans ce schéma-là.
Voilà.
Si on est là que pour, à la fin des fins, rajouter des contraintes et rajouter de la complexité, effectivement, l'entretien va coûter plus cher.
Alors, une des dernières questions que je voulais vous poser, certaines auditrices et certains auditeurs pourraient se dire des chartes, on en a déjà eu beaucoup. Nous avions, avec le Conseil international de biodiversité et immobilier, initié la charte biodiversité en 2018. Il y a d'autres initiatives comme BIG, le Biodiversity Impulsion Group. Je salue Sabine Desnaux, qui était à vos côtés, Catherine, au Salon des maires, pour parler de cette initiative. Elles sont nombreuses, elles peuvent être locales, elles peuvent être nationales. Quels projets concrets pouvez-vous citer ? Alors, cette charte est très récente, puisqu'elle date de mai. À la fois, ça peut être des projets qui étaient exemplaires, mais auxquels il manquait quelques caractéristiques et qui vous ont motivé à parfaire en fait l'ouvrage avec cette charte, et puis d'autres qui seraient dans les cartons. Est-ce que ça se concrétise ou est-ce que ça reste du papier ou un site internet sur lequel on a signé?
Alors, pour être très concret, on a donc un comité de pilotage qui se réunit tous les mois avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, pour être très concret, on a mis en place une fiche de présentation des programmes, donc que j'ai sous les yeux. La fiche de présentation des programmes se fera en phase dépôt de permis, et dans lequel on va identifier les principales caractéristiques du programme pour savoir s'il est labellisé ou pas. Et dans les éléments qu'on va suivre, on retrouve tous les éléments de la charte. Et en particulier, on va pouvoir très rapidement monitorer toute la partie qui correspond au nombre d'arbres à haute tige qu'on plante, au mètre linéaire de haies qu'on réalise, et également au mètre carré de prairies pelouses qu'on va engazonner. Donc en fait, on va avoir très rapidement des indicateurs et on les suivra aux différents stades, sachant que le programme ne sera labellisé qu'à la livraison. Donc on aura des programmes qui seront prévalidés en phase conception. Une fois qu'ils passeront en phase exécution, ils seront donc également confirmés dans leur intention et ils seront validés à la livraison. Donc du concret, on va en avoir très vite. Ça commence au 1er janvier avec les premiers programmes et on a déjà deux programmes qui sont candidats pour passer le premier comité. Ensuite, on a d'autres opérations où on a été sollicité par l'intérêt de la charte, par des acteurs qui ont signé la charte et qui souhaitent du coup mettre en avant des projets, en particulier Eiffage Immobilier, avec qui on échange sur les bassins à flot pour aménager un square dans une opération qu'ils ont au bassin à flot.
Donc les bassins à flot, rive droite à Bordeaux.
Rive gauche à Bordeaux, à côté de la base sous-marine. Donc territoire qui est c'est une plaque portuaire, donc finalement assez minérale, et sur lesquelles on va travailler avec Eiffage Immobilier, voir si on est en capacité de faire rentrer leur projet d'aménagement dans le cadre de la charte. Donc du concret, on va en avoir très rapidement auprès des adhérents, et plus particulièrement sur certains projets. Et là, je fais un appel à candidats. Tous les adhérents de l'AFPI qui souhaitent proposer des projets sont évidemment les bienvenus et sont regardés avec un œil bienveillant.
Alors, ce sera presque le mot de la fin. Je vais laisser à chacune et chacun d'entre vous ajouter quelque chose. Vous me tendez la perche facilement. Au fond, cette charte, elle est locale, mais Catherine l'a indiqué tout à l'heure, il y a aussi des instances nationales. C'est la maxime des agronomes de René Dubos, penser global, agir local. Là, on fait un petit peu l'inverse. On agit local. Est-ce qu'on peut penser global ? Je lance cette idée. Et pourquoi pas une charte délogement des arbres au national ? Chiche ?
Ah ben nous, on est évidemment très motivés pour faire remonter ça au niveau national. Et je doute que Pascal Boulanger, notre président, soit opposé à cette démarche-là. Bien au contraire.
Et ben voilà, la FPI, c'est presque dans la poche. De votre côté, Fédération des producteurs, Valor, ni pour ni contre, bien au contraire.
Non, bien sûr, nous étions conscients dès le départ que c'était une opération qui pouvait faire tache d'huile. Et évidemment, je passe la main à Catherine parce que c'est éminemment une charte qui est interprofessionnelle et qui doit intégrer tous les savoir-faire et toutes les compétences de nos différents métiers.
Oui, bien sûr, parce que ça rentre complètement dans la définition d'une interprofession. C'est de développer les bonnes idées et puis de les retraduire sur tout le territoire. Je suis d'autant plus satisfaite de ce projet qu'il s'inscrit dans des démarches d'amélioration continue, parce que ce qu'on cherche, c'est à faire mieux, toujours mieux. Et puis, le deuxième volet qui est intéressant, c'est cet observatoire, si je comprends bien, qui est en train de se construire. Et nous avons besoin d'avoir des chiffres, des preuves. Et j'ai bien compris qu'entre vous, vous étiez prêts à jouer ce jeu-là et à partir vers de beaux avenirs rayonnants et verdissants.
Eh bien voilà, chiche, l'invitation est lancée. Je rappelle que cette charte est disponible sur délogementdesarbres.com, qu'elle est pour le moment à impliquer à la région Nouvelle-Aquitaine et que les entreprises qui nous écoutent, qu'elles soient de production végétale, qu'elles soient de travaux ou qu'elles soient de promoteurs ou aménageurs, sont invitées à la signer nommément, personnellement, chaque organisation. Ça ne se limite pas aux fédérations. Et puis l'appel est lancé pour une réunion au niveau national et je dirais même plus, de faire se rencontrer des acteurs, pourquoi pas de big, avec des logements des arbres. Alors avant de vous quitter, chères auditrices, chers auditeurs, nous arrivons bientôt à la période des fêtes. Pour celles et ceux qui écouteront ce podcast l'été, eh bien, il y a des conseils de cadeaux qui ne seront plus d'actualité. Mais la première des choses à laquelle j'ai envie de vous inciter, c'est de planter des arbres. Alors, je me tourne vers le pépiniériste. Il y a un proverbe de saison, mais il y a peut-être une période plus large. Quel est le meilleur moment pour planter des arbres, Antoine ?
Alors, on peut planter des arbres toute l'année. Ça, c'est une réalité. Mais le moment idéal se situe entre le mois de novembre et le mois de mars. Voilà. Il ne faut pas se limiter au simple dicton de la Sainte-Catherine,
qui est
qu'à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. C'est à partir de la Sainte-Catherine et jusqu'à la période où les arbres démarrent et où il vaut mieux les laisser tranquilles. Mais cette période-là dure effectivement 5-6 mois et n'hésitez pas à planter.
Planter et offrir des arbres pour les naissances, mais aussi pour les occasions calendaires. Les fêtes de fin d'année arrivent, c'est une bonne occasion. Alors, les arbres, vous pouvez aussi en couper avec parcimonie, avec des sapins de Noël produits par des producteurs spécialisés de la filière horticole. Sachez qu'il faut utiliser un sapin artificiel pendant 20 ans pour que son bilan carbone soit égal à la coupe régulière d'arbres de Noël élevés en pépinière. Autant vous dire que l'épaisseur de poussière sera un petit peu rédhibitoire et vous fera probablement revenir vers le naturel, chasser le naturel, il revient au galop. Vous pouvez aussi, avec parcimonie, couper des arbres pour en faire des livres. Alors, nous pensons évidemment à l'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, mais il y a aussi une fable sortie il y a quelques années. Alors, je ne sais pas si celles et ceux qui nous regardent peuvent le voir, de Jean Chalandas, le maire qui aimait les arbres, et qui est une fable inspirée de celle de Jean Giono, qui en appelle à nos décideurs. Dans un registre plus sérieux, mais autour de la même idée, Francis Allais, qu'on ne présente plus, de l'Université de Montpellier, l'homme du radeau des cimes, qui a décrit, et c'est magnifique, je vous invite à aller voir ses livres, l'architecture des végétaux, a produit un manifeste qui s'appelle « Du bon usage des arbres », un plaidoyer à l'attention des élus et des énarques. Mais maintenant que nous avons aussi des énarques des travaux publics, et de l'immobilier, eh bien, nous pouvons vous inciter toutes et tous à le lire. Je rappelle que l'ENA, qui est l'École nationale d'administration et qui disparaît au 31 décembre 2021, perdure toujours dans le milieu horticole puisque c'est l'European Nurseries Association, l'association européenne des pépiniéristes. Petit clin d'œil à celles et ceux qui nous écoutent. Et enfin, quelques conseils un petit peu plus oniriques. J'aime beaucoup le journal intime d'un arbre de Didier Van Kovelaert. Vous noterez que tous ces livres en édition de poche chez différents éditeurs sont faciles à transporter dans les transports en commun, avec donc peu d'impact carbone et un coût limité. Sur ce même registre, vous connaissez tous Peter Volleben, La vie secrète des arbres, qui est très contesté. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin sur la manière dont pensent les arbres, lisez donc Jacques Tassin, qui est ingénieur horticole et écologue et qui a commis l'excellent ouvrage « Penser comme un arbre ». Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cette émission. Merci Catherine Muller. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'interprofession du végétal, de la fleuristerie et du paysage Valor. Merci Pierre Vital d'Idéal Group et président de la Fédération des promoteurs immobiliers de Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, merci Antoine Dagano, pépiniériste des pépinières charentaises et président de la FNPHP, la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et de la pépinière. J'ai dû respirer pour arriver jusqu'au bout en région Nouvelle-Aquitaine. Merci à toutes et à tous. À très bientôt.
Merci Pierre.
Merci.
Pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.